Bonjour à tous et à toutes. Ah, quand je suis à La Roche-sur-Yon, ils me disent: Ah, bonjour, pasteur. Bonjour à tous et à toutes. Gloire à Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. On a quand même le même Dieu à La Roche qu'ici. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y en a qu'un qui a le droit d'être glorifié et élevé. Ce n'est pas un homme qui se tient devant vous qui doit être glorifié. C'est Jésus-Christ seul. Parce que lui, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est parce que Jésus nous a aimés le premier. Et il nous connaissait avant même que nous naissions. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, eh bien, il a donné sa vie à la croix et il nous a aimés au point que son sang a été versé pour nos vies et que son corps a été crucifié et qu'il avait dans ses mains gravé nos noms déjà. Et ça, c'est une grâce de Dieu. De savoir que tous les jours, eh bien, le Seigneur Jésus nous aime. Et que chaque jour, son Esprit Saint qui habite en nous, qui a fait de nous, eh bien, les temples du Saint-Esprit, nous accompagne jour après jour. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous avez les salutations de l'église de La Roche-sur-Yon. C'est pas très loin pour ceux qui savent peut-être pas, mais je viens de Vendée. C'est 120 km d'ici pile de chez moi. Mais de La Roche-sur-Yon, c'est un peu moins. Ça doit être à peu près 90, 100. Voilà, en tous les cas, eh bien, que Dieu vous bénisse. Bénisse aussi votre pasteur qui est en repos, qui puisse le renouveler. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité d'apporter la parole de Dieu, comme tous les jours d'ailleurs, d'apporter eh bien le conseil de Dieu à chacun d'entre vous et à moi-même, bien sûr, puisque je l'ai reçu en premier. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier et puis je vous donnerai les quelques passages à lire ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux parce que nous t'appartenons. Seigneur, je suis heureux parce que, Seigneur, eh bien, nous sommes ta famille, Seigneur. Seigneur, tu es notre Père, oui. C'est toi qui veilles sur tes enfants. Tu connais les besoins de nos cœurs. Je te loue, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu es celui qui, encore ce matin, Seigneur, en réserve, Seigneur, eh bien, des paroles, Seigneur, qui vont toucher nos cœurs et qui vont transformer nos vies. Je te prie maintenant pour que l'onction de ton esprit vienne dans ce lieu, vienne toucher, vienne, Seigneur, mon Dieu, préparer nos cœurs, ouvrir les cœurs à ta parole. Seigneur, que tout ce qui peut être contraire à ta volonté, Seigneur mon Dieu, soit un rejeté de nos vies et que nos cœurs soient libres et libérés, Seigneur, d'entendre ce que toi tu as à nous dire. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Ta parole, c'est vraiment la lumière sur notre sentier. Tu veux nous conduire plus près de ton cœur. Encore ce matin, tu veux sonder nos vies et tu veux, Seigneur, eh bien, purifier tout ce qui peut dans notre vie, Seigneur, eh bien, encore être une entrave, Seigneur, à notre marche spirituelle avec toi. Merci parce que tu veilles sur nos vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre votre Bible, à lire un premier passage qui se trouve dans les Proverbes. Proverbe 18, verset 9. Ce matin, je fais un exercice très spécial pour moi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que, en fait, j'ai pas l'habitude de prêcher derrière un pupitre et avec un micro fixe. J'ai toujours un micro à la main et je bouge. Je suis une vraie pile électrique. Donc pour moi, ce matin là, c'est quelque chose de particulier d'être fixé là et de vous parler. Donc si je recule ou si je bouge, faites-moi, on t'entend pas. Comme ça, je pourrai comprendre. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Se relâcher dans son travail, c'est quelque chose que, effectivement, parfois, ça peut arriver. Le relâchement. Quel travail, l'œuvre que nous avons à accomplir en tant qu'enfants de Dieu, c'est une œuvre continuelle, c'est-à-dire, eh bien, de. Merci. Ça, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis pas sur mon temps, je sais pas si ça marche. Gloire à Dieu. Oui, ça marche? Voilà. Merci. Ah, ça va m'aider. En fait, c'est bien vivre des temps parfois de relâchement, ça peut arriver dans notre vie spirituelle. Nous avons une œuvre à accomplir qui est continuelle, une œuvre de nous rapprocher de Dieu, une œuvre eh bien, de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et nos vies et d'être tous les jours eh bien, celui ou celle que Dieu a choisi pour accomplir sa volonté. Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Dès que nous avons été rachetés, le plan de Dieu, ça a été eh bien, de nous intégrer dans son corps, de faire de nous eh bien, ses membres à part entière et de le servir jour après jour.
C'est pas simplement le dimanche matin qu'on sert Christ.
Sinon, ça serait triste la semaine. Tous les jours, eh bien, nous sommes appelés à servir Jésus-Christ, que ça soit au travail, que ça soit dans notre famille, que ça soit dans la rue, que ça soit, eh bien, en faisant vos courses, par exemple. Nous sommes appelés à servir Jésus-Christ de tout notre cœur, de plusieurs manières. Nous avons tous reçu des dons et des talents particuliers, et Dieu nous a donné cela. C'est une richesse de l'Église. De savoir, eh bien, que Dieu nous a choisis. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais là, dans cette parole, le Seigneur nous avertit que parfois, il peut arriver un relâchement dans notre vie. C'est-à-dire, eh bien, quelque chose qui va peut-être, eh bien, venir s'intégrer dans notre cœur, dans nos pensées, et mettre un frein dans notre vie. Et tout d'un coup, eh bien, on sent un refroidissement spirituel. Et j'aimerais déjà te parler ce matin à toi, peut-être, qui est entré dans ce lieu, et qui marche avec le Seigneur depuis peut-être quelques mois, des années, et qui a un relâchement, ou un refroidissement, une tiédeur, où tu sens que tu n'avances plus avec ton Dieu, qu'il n'y a plus le même élan, le même zèle que la première fois où Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand on a rencontré Jésus-Christ la première fois, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? La joie est entrée dans notre cœur, la joie d'être sauvé, la joie du salut. C'est la première chose que fait le Saint-Esprit dans nos vies, la joie du salut. Et cette joie-là a provoqué quoi? L'envie, eh bien, de servir Jésus-Christ toute notre vie. Sinon, c'est pas une vraie conversion. La vraie conversion, c'est quand la joie du Saint-Esprit vient parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. Nous avons été transformés, changés, que notre cœur, eh bien, qui était un cœur de pierre, est devenu un cœur de chair, que le Saint-Esprit est venu faire son habitation en nous, que nous sommes, eh bien, le temple du Saint-Esprit, appelés pour vraiment, eh bien, bénir le nom de l'Éternel en tout lieu et en toutes circonstances. Et cette joie-là, ce zèle de l'Éternel, eh bien, a fait que, jour après jour, notre désir a été, eh bien, de servir Christ de toute manière comme lui il le veut. Et peut-être ce matin, eh bien, oui, tu es entré et il y a un refroidissement, un froid qui s'installe. Et qu'aujourd'hui, eh bien, tu dis non, moi, je prends un peu du recul, comme on dit. Et il y a plusieurs raisons au relâchement. Parfois, eh bien, tu es en train de servir Christ dans l'église, à cet endroit-là. Peut-être en train de faire chanter. Et puis tout d'un coup, quelqu'un vient te parler à la fin d'un culte et puis te dit malheureusement une parole qui est blessante. Comme ça peut arriver parfois, on fait tous des erreurs. Puis peut-être vient te dire, ah, ce matin, tu sais, les chants que t'as choisis, oh, moi ça m'est arrivé quand j'ai débuté. Ah, tu nous endors ce matin. Waouh. Je dis, ah, ça fait mal. Je dis, wow. Il faut le prendre dans les dents, comme on dit. Et si on écoute cette pensée-là, et si on commence, eh bien, à la garder dans son cœur, eh bien, il peut se créer une pensée de dire, oula, moi je vais arrêter, je vais stopper. Je vais commencer à rentrer dans les rangs. Je vais venir, je vais simplement, eh bien, me réjouir dans la présence de Dieu. Je laisse la place aux autres. Je laisse tomber. On se relâche. Ce genre de relâchement arrive. Il y a d'autres façons aussi de se relâcher. Il y a d'autres raisons qui nous poussent à nous relâcher. Par exemple, ça fait des années que tu t'investis pour Dieu et tu vois toujours pas le fruit. Et ça fait des années que tu travailles avec fidélité, dans la joie, avec tes frères et sœurs. Tu travailles au sein de ta famille. Tu aimerais que tout soit converti. Et tu sèmes la parole de Dieu. Jour après jour, tu continues, tu avances. Mais tu ne vois pas le fruit qui arrive. Et ça fait peut-être des mois, des années que tu œuvres, que tu pries, que tu es vraiment consacré à l'Éternel. Et que là, tout d'un coup, bien, ce fruit qui manque, ça commence à peser sur ton cœur. Et puis le relâchement peut arriver. On va dire, oh, à quoi ça sert? Mais une autre raison, et c'est celle-là que j'aimerais surtout évoquer ce matin, c'est quand parfois, eh bien, une pensée de jalousie peut venir entrer dans ton cœur. Et ça, on n'y prête pas toujours garde au premier abord. C'est quelque chose d'insinueux, parce que vous savez que l'ennemi de notre âme, quand il met des pensées dans notre cœur, envoie des pensées dans notre cœur, eh bien, c'est toujours insinueux. Au premier abord, on ne fait pas attention. Et puis quand ça commence à faire son œuvre dans notre cœur, eh bien, ça va venir pour détruire tout ce que Dieu, lui, a construit dans notre vie. Et là, il faut faire vraiment très attention. La jalousie. La jalousie, c'est pas de l'envie, parce que parfois on confond les deux. L'envie, c'est désirer obtenir ou avoir quelque chose que l'autre a. Mais la jalousie en soi, c'est pas cela. La pensée de jalousie, c'est quand il y a une peur, une crainte qui vient s'installer dans ton cœur parce que bien quelqu'un a peut-être en ce moment plus d'égards que pour toi. Que peut-être, eh bien, un exemple, tu es en train de, je disais pour la louange, on va reprendre la louange. Quelqu'un vient et s'inclut eh bien dans ce groupe de louanges et tout d'un coup tous les regards sont sur lui. Et avant c'était sur toi. Et tu te dis ouais, je comprends pas. Avant eh bien on avait égard pour moi, etc. On faisait attention à ce que je disais. Maintenant c'est lui qu'on écoute plus que moi. Et là la jalousie peut commencer à prendre place. C'est là où elle commence à prendre place. C'est-à-dire que eh bien il y a une crainte, une peur de perdre la place ou la notoriété que tu avais, la relation que tu avais avec quelqu'un d'autre. C'est là où la jalousie va venir prendre sa place et détruire eh bien, toutes les relations. Et il ne faut pas confondre la jalousie et l'envie. Et j'aimerais prendre un exemple avec vous ce matin. Je vous invite à reprendre votre Bible. Deux frères que vous connaissez aussi bien que moi dans Genèse chapitre 4. Deux frères, et ça va mal finir, à cause d'une pensée de jalousie qui va s'inscrire dans le cœur d'un des deux frères. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit : j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn : où est ton frère Abel ? Il répondit : je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit : qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel : mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit : si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Amen. Alors on voit l'histoire de ces deux frères. C'est un bon démarrage. Caïn, eh bien c'est le premier enfant qui va naître d'une femme, d'Ève. Et Caïn, eh bien c'est quelqu'un qui, comme on voit là, il est laboureur, donc il va commencer à travailler la terre, il va découvrir eh bien comment cultiver le sol, etc. C'est un homme qui ne paye pas de mine, comme on dit. Il a son histoire. Il fait sa vie. Il est tranquille dans son coin. Et puis Abel, lui, va se tourner vers les troupeaux. Il va commencer eh bien à gérer tout cela, son cheptel. Et puis un jour, Caïn, eh bien, c'est le premier qui a dans son cœur eh bien ce désir de faire une offrande à l'Éternel. Tout ça est bon au premier abord. Et puis vient Abel qui lui aussi va faire eh bien son offrande. Et puis va apporter un animal de son troupeau. Et puis la parole de Dieu nous dit que tout d'un coup l'Éternel eh bien va jeter un regard favorable sur ce que Abel va proposer à l'Éternel. Et là il y a un problème. Le regard que Dieu va jeter sur eh bien l'offrande d'Abel va faire éclater dans le cœur de Caïn eh bien une pensée de jalousie. Pourquoi l'Éternel jette-t-il un regard favorable sur Abel et pas sur moi ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a eu eh bien ce regard-là alors que c'est moi quand même eh bien qui a apporté en premier les fruits de la terre ? C'est moi qui ai pensé. Pourquoi ? Et tout d'un coup, cette pensée est venue s'intégrer dans le cœur de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn ? Et pourquoi l'Éternel a-t-il jeté un regard favorable sur cette offrande-là ? La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel, eh bien, a été favorable aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il a apporté, eh bien, ce que Dieu avait déjà démontré dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève avaient péché. La première fois, quand ils ont péché, l'Éternel a fait quoi? Il a tué un animal pour les couvrir, couvrir leur nudité. Et Abel a fait que reproduire ce qu'il a entendu de ses parents et qui était aux yeux de Dieu quelque chose d'acceptable. Ce qui nous rapporte, nous, aujourd'hui, eh bien, à la croix, à Jésus-Christ, à la crucifixion. Nous sommes favorables aux yeux de Dieu parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce. Et c'est ce qu'Abel est en train d'exprimer au travers de son offrande. Caïn, lui, pourtant avait un bon élan de cœur à l'origine. Mais il y avait quelque chose qui était là dans son cœur que l'Éternel, eh bien, va venir déterminer, sonder en profondeur. Il y avait cette pensée, eh bien, qui était là de jalousie et de supériorité. Et Caïn ne le savait pas. Il ne pouvait pas se connaître parce que l'homme ne se connaît pas lui-même. Parfois, on croit bien se connaître. Connaître nos réactions, connaître nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos visions, etc. pour le futur. Mais en fait, il n'y en a qu'un qui connaît le cœur de l'homme, c'est Dieu. Moi, personnellement, je ne vous connais pas. J'ai cet avantage ce matin. Je peux prêcher tranquillement. Mais Dieu te connaît, personnellement. Il connaît mon cœur, il connaît le vôtre, il sait ce qui y règne et ce qui peut arriver. Et l'Éternel est celui qui va avertir, travailler, creuser nos vies afin de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est le but de la marche chrétienne. C'est d'arriver à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Dieu connaissait à l'avance ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn. Et quand il va y avoir ce regard qui va jeter sur l'offrande d'Abel, Dieu savait très bien ce qui allait se passer dans le cœur de Caïn. Dieu sait toute chose à l'avance. Et Caïn va développer, eh bien, cette pensée de jalousie. Pourquoi? Parce que premièrement, il avait un statut social. C'était le premier-né, c'est-à-dire, eh bien, c'était l'héritier. C'était le premier de la famille, celui qui a été aimé parce que c'était le premier homme sur terre qui est né d'une femme. L'attention des parents était sur Caïn. Abel, c'était le deuxième. Comme il arrive parfois dans les familles. Parfois, on peut créer ce sentiment, eh bien, de jalousie dans nos familles entre enfants parce qu'on a plus un regard sur l'un que sur l'autre. Et ça, faut veiller en tant que parent. Et Caïn, eh bien, c'est quelqu'un qui a les égards de ses parents. Donc, il est habitué à ce que, eh bien, il soit aimé, entouré, que son nom soit cité dans la famille. Parce qu'il est le premier. La deuxième raison, c'est que Caïn, eh bien, il a une notoriété. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler, qui a œuvré sur terre. Il est connu de cette manière-là. Il a un statut. Et pour la première fois de sa vie, dans son esprit, c'est comme si Abel devenait le premier devant Dieu. Et là, ça va tout chambouler dans sa tête. Pour la première fois, il entend que quelqu'un a les regards plus sur Abel que sur lui. D'où la pensée de jalousie dans le cœur de Caïn. Comment elle va s'exprimer, cette pensée-là? Dieu va lui dire. Comme quoi, son visage est triste. Son visage est triste. Son visage est abattu. Quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un d'autre ou d'une situation, c'est quelqu'un qui va rentrer petit à petit dans la tristesse. Au lieu de fixer la grâce de Dieu dans sa vie, de fixer les égards de Jésus-Christ pour lui, il va commencer à regarder, eh bien, son prochain, peut-être son frère, sa sœur, avec qui il y a ce problème-là. Comme on dit, il regarde en chien de faïence, c'est une expression. Il regarde et tout d'un coup, ses pensées qui étaient bonnes envers son frère ou sa sœur commencent à se transformer. Au lieu d'avoir de la joie d'aller dire bonjour, maintenant tout d'un coup, on va s'asseoir de l'autre côté. Au lieu, eh bien, d'avoir, eh bien, cette relation, ce lien de la paix, comme dit la parole. Tout d'un coup, on regarde l'autre et on commence à visualiser tous ses défauts, alors qu'avant, il n'y avait pas ce problème-là. Et Caïn est dans cette situation-là. Il regarde Abel. Abel, c'est son petit frère. C'est pas son ennemi. Et tout d'un coup, il devient son ennemi. Celui qui est en train de prendre sa place. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Caïn? Il y a l'amertume qui commence à rentrer dans son cœur. Cette amertume qui va vite pour détruire toutes les relations, même dans une église. L'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est un poison qu'on aimerait donner à l'autre, mais qu'en fait, c'est nous que nous consommons petit à petit, et ça nous tue. on croit faire du mal à l'autre, mais en fait, c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. Et ça, c'est l'amertume. Et si on conserve cela, la Bible nous avertit qu'il peut pousser des rejetons et qu'à l'arrivée, ça nous détruit et ça détruit tout. Et là où tu étais bien dans des relations avec des frères et sœurs, tout d'un coup, tu te replies sur toi-même, tu vis isolé et tu rumines. Et tu rumines. Et tout d'un coup, tu as des pensées, d'autres pensées qui se greffent sur l'amertume. Elle fait naître quoi ? Des pensées parfois de vengeance, des pensées de rancune, des pensées de haine, des pensées de médisance. Tu vas aller trouver d'autres personnes dans l'église. Tu vas dire, tu ne trouves pas qu'il est bizarre depuis quelque temps ? Alors que la personne n'a pas changé. Et puis si tu trouves une oreille bien attentive, qui a peut-être aussi un problème, tout d'un coup tu formes un clan. Et puis du clan, tu peux former une division dans une église. Ah, on peut être tous ensemble assis ce matin, hein ? Mais on peut être complètement divisé aux yeux de Dieu. Parce que moi, je suis avec un tel, et l'autre, il est avec un tel. Et la personne qui, elle, n'y est pour rien, elle comprend rien. Elle se dit, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? On sent le froid, on sent que c'est tendu, mais il n'y a personne qui parle. Tout d'un coup, eh bien, dans l'église, qu'est-ce qui se passe ? Et dans nos cœurs, à chacun, qu'est-ce qui se passe ? Le Saint-Esprit est attristé. Tu peux faire avoir des faux semblants, venir à grand sourire, mais dans ton cœur, le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, qu'est-ce qui se passe ? Quand le Saint-Esprit est attristé dans nos vies, quand on est attristé les uns envers les autres, qu'est-ce qui se passe ? La relation commence à se couper. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il nous résiste. Et il nous pousse à réagir de la bonne manière parce qu'il voit le danger dans nos vies. Et Caïn, lui, est entré dans ce système-là, un système complètement diabolique. Du petit frère qu'il était, Abel, avec qui peut-être il a joué, avec qui il est sorti dans les champs, avec qui il se baladait, il discutait, ils avaient des projets en commun. Tout d'un coup, à cause de cette pensée de jalousie, la haine monte dans le cœur de Caïn. C'est plus le petit frère, c'est mon ennemi, c'est mon rival, et je vais l'abattre. Et ça peut arriver dans nos cœurs. Peut-être tu vas pas tuer quelqu'un avec une arme. Tu n'as pas à faire comme Caïn. Mais tuer quelqu'un par la parole, c'est très simple. À la moindre erreur de la personne, tu commences à sortir une critique. Et tu viens et ta langue, au lieu de bénir, va devenir une malédiction. Et tu crées quoi ? La zizanie. Et c'est là où il faut faire très attention, frères et sœurs. Parce que la paix dans une église, à la fois c'est fort, mais à la fois c'est fragile. Et il faut veiller les uns sur les autres. Et si ça s'arrêtait là, l'histoire avec Caïn et Abel, eh bien, on dirait, mais Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Mais Dieu n'est pas absent de l'histoire. Comme on peut voir là, le Seigneur va venir parler à Caïn, parce qu'il connaît le cœur de son enfant. Et il va venir lui parler. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies jour après jour. Il vient, il sonde nos cœurs et il nous parle. Et il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es triste ? Pourquoi est-ce que tu es abattu ? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation-là ? Dieu le sait, lui. Mais pourquoi il pose cette question à Caïn ? C'est afin de l'amener à réfléchir autrement. Et à se poser, eh bien, devant le miroir de la parole de Dieu. De dire, regarde comment tu es. Parce que Caïn ne se voit pas, lui. Il est en train de sombrer. Et l'Éternel est en train de lui tendre la main, en fait. Et lui dire, réagis. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est pas une normalité. C'est quelque chose qui va t'emmener très très loin et qui va détruire ta vie. Non seulement la tienne, mais d'autres autour de toi. Et Caïn n'écoute pas l'Éternel. Il ne se laisse pas sonder par le Saint-Esprit. Il est celui qui résiste à Dieu, qui a un plan déterminé, et il va jusqu'au bout. Il va tuer Abel. On a toujours le choix. Et tu as le choix ce matin de réagir. C'est ce que l'Éternel dit à Caïn. Tu as le choix de réagir. Le péché est devant ta porte, mais toi, tu peux fermer la porte. Tu peux lui résister parce que tu as cette capacité dans le nom de Jésus. Parce que tu peux résister à la tentation. Tu peux le faire. C'est pas une fatalité, la jalousie. Tant qu'elle reste que pensée, on peut la lier dans le nom de Jésus. Et c'est quand elle a fait son œuvre que ça devient compliqué et qu'il y a des conséquences. Et Dieu est proche du cœur de Caïn. Il aime Caïn. Il aime Caïn et il t'aime, même si ce matin, peut-être, tu es rempli de jalousie ou d'amertume ou de rancune par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il te parle et qu'il veut te faire sortir de cette situation-là. L'épreuve par laquelle passe Caïn, Dieu l'a déterminée à l'avance pour faire ressortir justement ce problème qui était dans le cœur de Caïn. Quand tu passes par une épreuve, quand on passe par une épreuve, c'est pas par hasard avec Dieu. Quand le Seigneur te fait passer par une épreuve, par une circonstance de ce type-là, c'est pas pour te faire souffrir, mais c'est pour te changer, te transformer. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'épreuve de notre foi, elle va produire premièrement la patience, c'est-à-dire la persévérance. Et elle va nous transformer petit à petit si on réagit bien. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans le cœur de Caïn. C'était l'amener à la bonne réaction. Et regarde, tu es capable, Caïn, de changer. Tu es capable de résister. Et moi, je vais le faire avec toi. Mais regarde qui tu es vraiment. Dieu voulait l'amener à cette réflexion-là. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est toujours nous amener à voir qui nous sommes vraiment. Combien de fois tu pries en disant « Seigneur, sonde mon cœur, ô Éternel !» Vous avez tous fait cette prière en tant qu'enfant de Dieu. Et on la fait régulièrement. « Purifie mon cœur, Seigneur !»« Sanctifie-moi, Seigneur !» Oui ou non ? C'est une prière que nous faisons régulièrement. Et c'est une bonne prière devant Dieu. Parce que ça, c'est suivant la volonté de Dieu. Et quand nous prions comme ça, la réponse de Dieu, c'est quoi ? C'est toujours nous faire passer par des circonstances pour justement sonder nos cœurs. Alors pourquoi commencer à se plaindre quand nous passons par l'épreuve ? Parce qu'en fait, Jacques dira, regardez eh bien, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés comme une joie complète, parce que ça va produire du fruit dans vos vies. Quand Dieu vient interpeller Caïn, ça dérange Caïn. Même s'il sait ce que Dieu dit est vrai, puisqu'il est la vérité. Il ne veut pas l'entendre de cette oreille-là. Son cœur se ferme. Son cœur s'endurcit. Son cœur devient une pierre. Et c'est ce qui se passe quand nous continuons sur cette voie-là, frères et sœurs. Quand nous continuons à consommer l'amertume créée par la jalousie, et que cette amertume-là commence à régner sur notre cœur. Nous nous endurcissons. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur notre vie. On devient hermétique à la parole de Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est la première chose qui est touchée dans notre vie. C'est même pas notre relation premièrement avec la personne. C'est quelque chose qui vient, eh bien, prendre place. Et au lieu d'avoir une relation qui s'affermit, on a une relation qui se détruit. On n'entend plus la voix du Saint-Esprit. Parce que nos oreilles spirituelles se bouchent. On ne voit plus Jésus-Christ agir dans nos cœurs. On ne le fixe plus sur la croix. On ne le fixe plus sur son trône de gloire. Pourquoi ? Parce que nos yeux spirituels sont voilés. Caïn est devenu aveugle à cause de la jalousie. Et quand il voit Abel, il voit son ennemi, il faut le tuer. Alors attention, frères et sœurs, à la jalousie qui va venir détruire nos cœurs. Il y a des exemples dans la parole de Dieu où on voit l'Éternel qui va sonder le cœur de ses serviteurs. Il y en a un en particulier, c'est Moïse. Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Un jour, la parole de Dieu nous dit, eh bien, comme quoi, il y a 70 anciens qui vont être emmenés près du tabernacle et Dieu va prendre de l'esprit de Moïse et va le faire reposer sur les anciens. Et ils vont tous prophétiser. Mais il y en a deux qui sont restés dans le camp. Et ces deux-là, eh bien, on pourrait laisser penser que, eh bien, ils s'excluent eux-mêmes et que Dieu les a oubliés. Mais non. L'esprit qui était sur Moïse va aller sur les deux anciens qui étaient dans le camp. Et tout d'un coup, Josué, qui est le serviteur de Moïse, entend ces deux personnes-là en train de prophétiser dans le camp. Et pour lui, c'est une anomalie. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il court voir Moïse, puis il lui dit, hey, « Hé, Moïse, sais-tu qu'il y en a deux eh bien, qui prophétisent dans le camp ? Est-ce que tu veux que je les arrête ?» C'était un test pour Moïse. Si Moïse avait été jaloux, s'il avait commencé à travailler du cerveau, comme on dit, à dire, mais ce que ça veut dire, c'est pas normal, les 70 anciens sont là, ils devraient pas être là-bas, patati patata. Moïse aurait pu tomber dans un piège. Mais quelle va être la réponse de Moïse ? Exode, non, c'est Nombre, pardon, chapitre 11, verset 29. Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Moïse n'est pas tombé dans le panneau. Il va dire : Tu es jaloux pour moi ? Il ne faut pas que tu sois comme ça. Au contraire, c'est une grâce de Dieu que tout le monde le serve. Et au contraire, que tout le monde le serve. Parce que je ne veux pas être celui qui est au-dessus de tout le monde. Je suis avec tout le peuple. Moïse fait preuve de quoi ? D'humilité. Et c'est ce qui va protéger, en fait, le cœur de Moïse. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai un frère à l'église que je commence à former dans la prédication, etc. Et je l'utilise pour divers services. J'ai une équipe de 6-7 personnes. Et puis, un dimanche matin, j'avais fait un appel et puis il y avait du monde qui s'était avancé. Donc j'étais débordé. Donc j'ai appelé les anciens, etc., comme on fait d'habitude. Mais on était tellement débordé que j'ai appelé certains frères qui sont qualifiés pour ça. Et puis, normalement, lui, il est qualifié pour ça. Et dans mon cœur, le Seigneur me dit, ne le prends pas. Alors je le regarde, je dis, reste assis. Hein? Et les autres se lèvent. Moi, je savais pas ce que ça allait créer. Et puis, dans la semaine, je sens vraiment que mon frère, spirituellement parlant, je sens qu'il va pas bien. Je dis, Seigneur, il faut que je l'appelle. Non, ne l'appelle pas. Ok, je l'appelle pas. Le dimanche suivant, à nouveau un culte, on fait un appel. Et puis là, le Seigneur me dit, prends-le maintenant. Ok, alors je vais le prendre. Je lui dis, viens. Ah, il vient. Et puis, il sert avec moi. Puis à la fin du culte, il vient. Puis il me dit, faut que je te parle. Je dis, ok, ouais, pas de problème. Puis il me dit, voilà, écoute, ouais, j'ai passé une sale semaine. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, dimanche dernier, là, tu m'as pas pris avec les autres. Et je lui dis, tu sais ce que Dieu m'a dit dans mon cœur quand je t'ai pas pris? Le Seigneur m'a dit, je suis en train d'éprouver son cœur afin que l'orgueil, la jalousie disparaissent de sa vie afin qu'il devienne un serviteur accompli. Je lui dis, c'était dur pour moi de pas te prendre parce que je t'aime bien. Mais quand Dieu me dit non, c'est non. Moi, j'obéis. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais Dieu est celui qui est souverain et connaît ton cœur. Connaît mon cœur. Et je lui dis aujourd'hui, quand tu as été pris, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, j'étais heureux. Et j'ai compris que oui, j'avais de la jalousie dans mon cœur. Et Dieu m'a complètement purifié ce matin. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Maintenant, avance. Et c'est ça ce que Dieu fait dans nos vies. C'est très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Comme quoi Dieu donne toujours une porte de sortie. Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Et on le voit avec Cain. Il laisse une porte de sortie. Et il lui montre la direction. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. » Oh Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Non, c'est pas comme ça qu'on prie en tant qu'enfant de Dieu. On dit, Seigneur, montre-moi comment sortir de l'épreuve. La Bible nous dit dans les psaumes comme quoi, eh bien, quand on traverse la vallée des pleurs, eh bien, Dieu est celui qui va nous apprendre à la transformer en un lieu plein de sources. Il dit, c'est nous qui la transformons. Donc Dieu veut nous apprendre. C'est un enseignant parfait. Cain n'a pas voulu prendre sa leçon. Mais je crois que nous, ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, on veut écouter la voix du Saint-Esprit et dire, Seigneur, moi je veux apprendre. Comment sortir de là si je suis tombé dedans? Et c'est très simple. Premièrement, comme je disais, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est toujours quelque chose que Dieu cherche dans nos cœurs. Quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui ne progressera pas avec Dieu. C'est une impossibilité. Parce que même Jésus-Christ va dire, comme quoi il faut se préserver de l'hypocrisie des pharisiens, c'est-à-dire des masques. Avec Dieu, pas de masque, bas les masques. Si tu veux progresser, tu dois être honnête. Honnête avec Dieu, honnête avec toi-même. Quand le Saint-Esprit vient sonder ton cœur et te montre, eh bien, qu'il y a ce genre de pensée dans ta vie, la première réaction, c'est de dire, Seigneur, tu m'as montré ça, alors je vais rentrer dans l'humilité et dans la repentance avec toi. Seigneur, change mon cœur. Viens briser en moi ce qui peut devenir une forteresse parce que je veux te ressembler. Ça s'appelle l'humilité. La deuxième chose, et c'est Dieu qui va lui dire, domine. Comment on doit dominer sur ce genre de pensée? On domine, et c'est Jésus-Christ qui nous l'a montré, par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est droite, c'est une épée. Et elle est là, eh bien, non pour nous condamner, mais elle est là pour nous donner la force, eh bien, de résister, eh bien, à ce genre de pensée. Et on doit apprendre à abattre ce genre de pensée dans nos cœurs. Le champ de bataille dans nos vies, c'est pas contre les autres, c'est en nous-mêmes, c'est dans notre cœur. C'est là où le vrai champ de bataille. C'est de discerner le bien du mal et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. À partir du moment où Dieu nous a éclairé, qu'il y a cette chose-là qui est là, alors soyons malléables entre les mains du potier, afin que lui, eh bien, nous donne la parole adéquate afin de résister à la tentation. C'est comme ça que Jésus a fait. Il a résisté au diable comment? Pas en lui disant « tu t'en vas », non. Il a utilisé la parole de Dieu et face à ça, le diable peut rien faire parce qu'elle est foi et autorité. On peut rien contre cela. Tu dois dominer par la parole de Dieu. Troisième chose, et c'est ce qui peut être un vaccin sur ta vie, c'est connaître ton identité en Christ. Caïn ne connaissait pas son identité en fait face à Dieu. Il ne savait pas combien Dieu pouvait l'aimer. Il ne savait pas combien Dieu avait des projets pour lui. Dieu avait des projets pour Caïn. Il ne savait pas quelle place il avait dans le cœur de Dieu. Et parfois, eh bien, il y a cette pensée de jalousie qui peut venir dans une église, comme je disais ce matin, par rapport aux frères et sœurs, parce qu'on ne connaît pas notre place dans le corps de Christ. Si moi je connais ma place, mais il peut y avoir 18 000 prédicateurs ce matin, moi je sais que je suis choisi de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour les autres. Parce qu'en fait, on est complémentaires. Moi je prêche d'une manière, d'autres prêchons d'une autre. La preuve, il y a 5 ministères, si je parle de ceux qui apportent la parole, et on les connaît. Les apôtres, les enseignants, les prophètes, les évangélistes, etc. On est tous différents. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. C'est ça qui fait la beauté de l'Église. Et c'est ça qui fait la force de l'Église. C'est de voir comment Dieu, eh bien, investit nos vies et nous a tous fait différents. Mais quand on se met bout à bout, on a une armée exceptionnelle. Alors pour vacciner notre cœur, peut-être cette pensée n'est pas là en toi. Alors que ma prière et ta prière devaient être « Seigneur, mais fais-moi connaître mon identité en toi. Comme quoi je suis bien un enfant du royaume des cieux. Et que rien ni personne ne peut prendre ma place. Elle est déjà réservée. Fais-moi connaître les dons et les talents que tu m'as donnés. Afin que je puisse les mettre à profit pour ton royaume. Et donne-moi aussi, et c'est la dernière chose, de reconnaître la valeur de ceux qui sont autour de moi. La première valeur, c'est le sang de Jésus qui nous purifie tous de nos péchés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Moi, je viens d'une autre église, vous ne me connaissez pas, mais je suis votre frère. Et vous êtes mes frères et sœurs. Peut-être j'ai le pire caractère de parmi vous, mais pourtant je suis votre frère. Et ça ne change rien. C'est ça la richesse de l'église. C'est qu'on s'apprécie premièrement parce que Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu. Deuxièmement, je reconnais que ce que Dieu t'a donné, je ne l'ai pas. Et que ce que tu vas apporter dans le royaume des cieux, eh bien, c'est une très bonne chose. Et que moi, je vais apporter quelque chose que toi, tu ne peux pas apporter. Alors, gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous a placés dans son corps. Et la Bible nous le dit, et c'est par là que je termine, 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous ses membres, à part entière. Et chacun a une fonction différente. Mais on ne peut pas dire à l'un ou à l'autre, j'ai pas besoin de toi. Au contraire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Et nous avons tous besoin de qui? De Dieu dans notre vie. Et quand nous marchons de cette manière-là dans l'amour, quand nous marchons dans la fraternité, quand nous marchons en connaissant combien Dieu est bon envers chacun d'entre nous, ces pensées-là, nous en sommes vaccinés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Ça veut dire que nous nous préservons nous-mêmes et que nous dominons de cette manière-là sur ce qui pourrait arriver et qui pourrait diviser ou casser toute chose. Et qui est glorifié à l'arrivée? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il aime quand ses enfants vivent ensemble, unis de cette manière-là. Je reconnais la grâce qui est sur ta vie. Je reconnais la grâce qui est sur chacune de vos vies ce matin. C'est pas à cause de moi, mais à cause de celui qui a donné sa vie. Alors que le Seigneur vous bénisse. On va prier, puis après je laisserai la place. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu sais parler à nos cœurs. Ta parole, elle est claire, elle est limpide. Seigneur, tu es un parfait enseignant. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui peut se passer ce matin dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui peut traîner, qui est, Seigneur, mon Dieu, impur à tes yeux et qui peut nous emmener vers la chute. Seigneur, nous te prions ce matin. Viens sonder nos cœurs en profondeur. S'il y a des racines d'amertume, s'il y a des racines de jalousie, s'il y a des racines de haine, de rancune, Seigneur, s'il y a des envies, Seigneur, de prendre du recul, de se refroidir, de se relâcher dans son travail, Seigneur, je te prie, mon Dieu, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur. Seigneur, vienne ôter, Seigneur, mon Dieu, eh bien, ce qui est devant nos yeux, qui nous aveugle et qui nous sépare, Seigneur, les uns des autres et de toi en premier. Seigneur, je te prie ce matin. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette salle, Seigneur, qui est dans cette situation-là, je te prie par la puissance de ton esprit, viens libérer cette personne, Seigneur. Viens lui montrer, Seigneur mon Dieu, la direction. Viens lui montrer la voie, Seigneur. Viens lui montrer, Seigneur, comment sortir de là. Seigneur, parce que je sais que ta grâce, Seigneur mon Dieu, elle est infinie pour tes enfants. Toute la puissance est en ton nom, Jésus. Et tu veux guérir, Seigneur, les cœurs malades. Tu veux libérer encore ceux qui sont prisonniers de ce genre de pensée, Seigneur. Parce que tu veux voir ton Église heureuse, unie, fraternelle, Seigneur, te ressembler, Jésus. Merci parce que nous sommes ton corps. C'est vraiment la grâce, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur, d'être enfant de Dieu. Merci pour les dons et les talents. Donne à chacun de les découvrir, Seigneur. Donne à chacun de les mettre, Seigneur, en exercice pour toi. Donne à chacun d'entre nous et à cette Église particulièrement d'avancer pour la seule gloire de ton nom, d'être main dans la main, Seigneur, et de veiller sur son prochain afin qu'il ne tombe pas, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas répondre comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Seigneur, nous répondons tous ce matin devant toi. Seigneur, que nous sommes les gardiens de l'autre, parce que tu nous as dit de veiller les uns sur les autres. Alors, Seigneur, que personne ne se perde, mais que chacun parvienne, Seigneur, un jour jusqu'à, Seigneur, ta rencontre. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.